Évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 4. Texte que sûrement vous connaissez. J'en fais la lecture à partir du verset 1er. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples que et en baptisait plus que Jean. À dire vrai, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jusqu'ici, parole de l'Éternel. Je vous invite à la prière. Seigneur, dispose nos cœurs à comprendre ce que tu veux nous dire au travers de cet évangile. Donne-nous ton esprit pour l'appliquer à notre cœur, afin que nous en vivions. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, vous la connaissez sûrement, cette histoire, elle est assez souvent lue et méditée, réfléchie. Mais j'ai voulu l'apprendre parce que la dernière fois que je l'ai lue, j'ai découvert de trésors, enfin des choses que je n'avais pas perçues les fois précédentes dans mes lectures, dans ma méditation, et des choses qui concernent le souci que vous avez vous aussi de l'évangélisation. Ce texte de la rencontre de Jésus avec cette femme, comme tous les textes de rencontre dans lesquels on voit le Christ rencontrer telle ou telle personne, sont très parlants, hein, tous ces textes, très parlants, et à nous qui avons le souci d'être témoins du Christ, si tel est notre souci, ces textes-là nous donnent des pistes. Et je voudrais partager avec vous quelques-unes de ces pistes que j'ai moi-même trouvées dans ce texte. Ce qui est intéressant, dit le texte, c'est que Jésus doit aller en Galilée. Il se trouve en Judée et il doit aller en Galilée. Et il se trouve que les Juifs ont une manière de faire. Ils ne traversent pas la région de la Samarie, qui se trouve entre les deux, mais la plupart du temps, ils traversent le fleuve pour la contourner et retraverser à nouveau le fleuve pour aller en Galilée où il veut. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent. C'est là la tradition qui est la leur, parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire aux Samaritains. Voilà Jésus qui vient finalement pour briser une de ces règles, une de ces traditions, une de ces choses établies, une de ces choses qu'on ne discute plus. Hein, qu'on ne discute plus, ni du côté des Juifs, ni du côté des Samaritains. Parce que cette femme samaritaine, elle aussi, hein, est dans ses préjugés. Elle aussi, qu'on considère qu'il ne faut pas parler aux Juifs. En tout cas, c'est comme ça. Elle a été éduquée, elle a été élevée dans cette façon de faire. Et Jésus, première leçon que je trouve tellement forte, c'est qu'il vient et il vient pour casser ce rythme. Il vient pour casser cette tradition, cette façon de faire, ces choses ancestrales dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais qui sont là, qui nous emprisonnent, qui cassent, qui mettent des murs entre les gens. Il vient et il décide, non pas de contourner comme tout juif ferait, mais de traverser la Samarie. Hein, mais de la traverser, d'aller auprès des gens. Et il s'arrête à un puits. Peut-être aurait-il pu prévoir des prévisions auparavant avec ses disciples, et puis traverser la Samarie sans regarder ni à gauche ni à droite, sans parler à qui que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Il fait en sorte, on peut dire, de ne pas avoir assez de vivres pour traverser et aller se retrouver là-bas sans s'arrêter. Et il fait en sorte de s'arrêter dans une ville, dans un village et près d'un puits pour y boire. Et puis là, se trouve qu'une femme vient et le voilà à lui demander à boire. Il parle à cette femme. Hein, il la considère. C'est pas, elle n'est pas rien. D'ailleurs, généralement, quand on ne parle pas à l'autre, hein, on doit, pour ne pas parler à l'autre, on doit s'inventer ou on doit adopter des mensonges sur l'autre, hein, quel qu'il soit, mais des choses qui sont fausses, qui ne disent pas tout l'autre, hein, parce qu'il faut le rendre finalement presque comme un monstre, en tout cas quelqu'un, hein, qui n'est pas digne dans lequel il n'est pas digne de rester, avec qui on ne doit pas adresser la parole. Il y a plein d'idées comme ça qui nous viennent et qui nous nourrissent, hein, et qui font qu'on a en nous tout ce qu'il faut pour ne pas traverser la Samarie, pour ne pas traverser notre Samarie, pour ne pas traverser la Samarie qui est la nôtre, mais pour détourner, pour passer, pour prendre plus de temps et traverser, faire le contour. Hein? Et pour cela, il faut qu'on trouve des raisons. Tant de raisons ont été trouvées pour ne pas être en contact avec l'autre. Jésus traverse la Samarie et décide de s'y arrêter et voit une femme, il la prend en considération. Elle n'est pas diabolisée, elle n'est pas celle qui ne surtout pas entendre, voir, regarder. Mais non, il lui adresse la parole. Et donne-moi de l'eau. Et là, pour ma part, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, que je boive, et puis s'ensuit une conversation, hein, qui devient spirituelle, hein, qui va dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, le donne-moi de l'eau est le contact qu'il va prendre avec cette femme. Il se met à un puits, il est fatigué, il veut boire. Cette femme vient à un puits parce qu'elle a besoin d'eau pour sa maison, et bien voilà. Il y a comme un pont, il y a comme un point de contact possible. Je vais lui demander de l'eau, et ce sera l'occasion de parler. Voyez ? Et je trouve que dans notre souci d'être témoin avec les autres, il y a là deux leçons déjà qui nous sont données. Oser traverser la Samarie. On ne peut pas être en contact avec les autres si on ne traverse pas cette Samarie. Qui est la nôtre? Quelle est la nôtre? Et la question qui va être posée, c'est quelle est notre Samarie? Celle qu'on ne veut pas traverser, celle pour laquelle on va faire le contour. C'est qui cette autre Samarie? Parce que c'est une région, mais ce sont des gens, ce sont des Samaritains qui sont là. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le contact avec eux, parce qu'on ne sait pas comment faire avec eux, parce qu'on n'a pas, on n'est pas du même milieu, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et il y a tellement de raisons qui sont des barrières, autant de barrières avec l'autre. Et autant de barrières que nous considérons comme justes, comme normales. Ça ne vient pas de notre fait. C'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais c'est comme ça. Hein? Quelle est notre Samarie? Et ensuite, Et le deuxième point après cette question, c'est que Jésus se trouve là avec elle et il a un point de contact. Elle va puiser de l'eau, il a soif, c'est l'occasion de lui demander et de parler avec elle. En fait, la stratégie, si on voulait parler de stratégie, si je voulais employer ces termes par rapport à Jésus, la stratégie pour l'évangélisation, pour démontrer ça, pour annoncer qui il est à cette femme, parce que c'est ce qu'il va annoncer finalement à cette femme. C'est d'ailleurs dans le texte de l'évangile, c'est la première à qui il dévoile clairement qui il est. Généralement, ce n'est pas le cas. Là, il dévoile qu'il est à cette femme, une Samaritaine, une étrangère, et tout cela. Il va, mais il y a un contact qui est pris. Et je crois que dans la stratégie, c'est qu'il faut traverser la Samarie, et puis aussi, il faut avoir le souci d'avoir le contact avec l'autre, avec ce Samaritain. Hein? Et on réfléchit, hein, quel est le contact, quel est le point d'ancrage, hein, qui va nous permettre d'être en contact. Il y en a tellement. Là, tous les deux sont des êtres humains, hein, qui ont soif, qui peuvent qui ont en commun le fait qu'ils ont besoin d'eau. Et bien, c'est l'occasion de parler. Vous voyez? Et je crois, hein, vous croyez qu'il est en train de nous dire là qu'avec l'autre, quel qu'il soit, il y a moyen. Il y a moyen d'entrer en contact. Parce que c'est un autre comme moi. Et qui peut, et qu'il a aussi les mêmes problématiques qui sont les miennes. Hein, moi qui suis croyant. Hein, il a une famille, sûrement. Il y a la maladie qu'il doit connaître. Il y a les enfants et la problématique de la famille qu'il doit connaître. Il vit dans ce monde. Il y a le travail. Il y a quelque chose. Peu importe, il y a quelque chose parce qu'il est comme moi. Il vit dans le même monde que moi. Il connaît les mêmes problématiques que les miennes. Il y a des possibilités d'entrer en contact avec lui. Et si nous voulons être des témoins du Christ, semble-t-il, il est important hein, de comprendre que l'autre est dans le même monde que nous, qu'il a les mêmes problématiques que les nôtres, et que du coup, nous avons de quoi entrer en contact, si nous voulions, avec lui. Et il parle avec cette femme de choses importantes, d'eau, hein, d'eau vive, différente. Je rentre pas dans, je vais pas rentrer cette fois-ci dans la leçon théologique, parce qu'il dit quelque chose du sens de l'eau, hein, qu'il est lui-même, hein, celui qui nourrit le cœur pleinement et tout ça, c'est une réalité. Mais je voudrais travailler sur un peu la manière dont il donne son message. Alors, il rentre en contact avec cette femme. Il rentre en contact avec cette femme et il prend le temps avec elle. Il prend le temps avec elle, de telle sorte qu'une conversation a lieu. Dans la conversation, on apprend à se connaître. Hein? Elle apprend à mieux le connaître. Et lui aussi, d'une certaine manière. Jusqu'à un moment où il lui pose cette question de venir, alors donne-moi cette eau, alors va chercher ton mari. Et là, il arrive à lui dire quelque chose qu'elle seule peut savoir. Ils sont que deux dans ce puits, et lui, et il ne peut pas savoir ce qu'elle sait de sa vie. Et là, il lui dévoile d'une certaine manière sa vie. Je crois que là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dévoilé quelque chose, et waouh! Elle dit quoi? Mais ne serais-tu pas un prophète? Et juste après cela, tu es un prophète, qu'est-ce qui se passe? Elle lui pose la question. Nos pères nous ont dit d'adorer sur la montagne. Vous, vous dites d'adorer dans la ville. Hein? Où est la vérité? En fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est la question fondamentale qu'elle se pose. C'est ce qui la tarabusque dans son esprit concernant la vraie vie, concernant le sens de la vie. C'est de ça qu'il est question pour tous. Mais pour pouvoir poser cette question, il a fallu qu'il y ait cette conversation, ce contact pris. Et puis il a fallu qu'il y ait ce que moi j'ai appelé le fait que Jésus asseye sa crédibilité auprès de cette femme. Il s'est mis en contact avec elle, mais il y a eu aussi ensuite le temps de la crédibilité qu'elle se pose. Pour Jésus, ça s'est passé en une seule conversation. La crédibilité s'est assise là. Il a assis la crédibilité quand il a pu voir dans le cœur de cette femme et lui dire des choses que personne ne pouvait dire. Et là, elle a dit, ah oui, non, là je comprends bien. Il y a quelque chose de plus qui se passe là. Et du coup, elle a pu aller dans le fond pour maintenant parler de choses spirituelles profondes qu'elle a à cœur. Je crois que la stratégie qu'il nous propose là de vivre, en tout cas, auquel il nous propose de réfléchir, c'est qu'il nous faut traverser la Samarie, oser, vouloir. Il nous faut chercher le pont, l'accroche, la nécessité d'être en contact. Et ça se fait par rapport à l'un d'une manière, par rapport à l'autre d'une autre manière. Mais il nous faut pour cela prendre du temps. Il nous faut pour cela considérer l'autre, voir la nécessité, avoir la volonté d'être en contact avec cet autre. Prendre un truc. Et puis, enfin, vous allez dire, il faut le temps que la crédibilité se fasse. Et comment peut s'asseoir la crédibilité pour nous chrétiens dans nos rapports avec les autres? Il me semble que c'est dans le temps, afin qu'ils puissent nous voir vivre avec cohérence la foi qui est la nôtre. Les gens, notre société, n'attendent plus de beaux discours. Ce n'est plus une prédication du ex-cathédra qui interpelle les gens. Ce qu'ils veulent voir, ce qui va les interpeller, c'est la vraie vie. Parce qu'ils sont dans la vraie vie. Hein, et ils veulent que ceux qui leur parlent de Dieu, ceux qui veulent leur parler de Jésus-Christ, soient dans la vraie vie. Et montrent comment dans la vraie vie, dans les problématiques que tous ont, comment leur foi est pertinente. Comment leur foi leur permet de vivre la réalité de la vraie vie que chacun, que tous ont. C'est comme ça. Ils veulent de l'authenticité. Hein? Ils ne veulent pas simplement qu'on leur dise « Dieu t'aime » ou « ceci ou cela ». Ils veulent qu'on démontre dans les faits, dans les gestes, dans notre manière d'être, l'amour de Dieu. Hein? Et là, c'est comme ça que peut s'asseoir la crédibilité des croyants que nous sommes, la cohérence de notre vie, de telle sorte que peut-être, du fait de cette chose-là, la confiance là, puisse s'établir jusqu'au point où la parole se délie. Au fait, j'ai une question par rapport à ta foi. En tout cas, dans ce texte, c'est ce qui se passe. Hein? Jésus a... Ah ouais, il y a quelque chose qui se passe. Toi, tu es différent des autres. Tu es différent, il y a quelque chose là. Mais j'ai une question pour toi. Et là, s'ouvre l'occasion de témoigner réellement. Et asseoir cette crédibilité se fait dans le temps, hein, dans l'investissement que nous allons avoir avec les autres. Le contact, hein, la fidélité, parce que c'est en vivant avec, au milieu, et en vivant d'une façon conforme à la parole, au milieu et avec les autres, que là, les gens peuvent voir, hein, qu'est-ce que c'est qu'être croyant, et pour pouvoir aller un peu plus loin. Voilà ce que ce texte comment ce texte m'a interpellé en ce qui concerne le contact de Jésus avec cette dame. Mais voilà, au moment où elle lui pose la question, hein, qui pour elle est essentielle, parce que vous savez, les gens, avant de vous dire, avant de nous dire les choses authentiques et vraies, les choses intimes, les choses qui se bousculent au fond de leur cœur, avant que cela sorte, il faut du temps. Il faut de la confiance. Voyez ? Et c'est ce temps-là qu'il nous faut prendre, accepter de prendre avec eux. Jusqu'au jour où il peut se dire, voilà mon problème. Tu sais, on se connaît depuis tant, mais je ne t'ai jamais dit. Aujourd'hui, je te l'ai dit. Tu sais, voilà ce qui m'arrive. À toi, je peux te le dire peut-être. Comment toi, tu vivrais cette affaire ? Comment toi tu vivrais cette situation? Ou alors, si je t'observe depuis tant, j'ai vu comment tu as géré la maladie de ton fils, ou de ceci ou cela, le deuil, ou cette affaire-là. Mais comment tu y es arrivé? Comment? Hein, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que tu vas tous les dimanches à l'église? Pourquoi? Alors, avec tout ce qui t'arrive, hein, comment ça se fait que tu continues à croire en Dieu? Voilà, vous voyez, ça ce sont les questions qui viennent, c'est des interpellations qui viennent, mais parce qu'elles sortent comme ça, elles jaillissent quelquefois du cœur, mais parce qu'ils voient la cohérence. Ils se disent, non, il y a un truc là, c'est pas comme ça que les autres vivent, c'est pas comme ça que je vis. Cette dimension de la cohérence, notre foi avec la vraie vie. Hein, pour dire que la foi dans laquelle nous nous ancrons est pertinente pour le monde d'aujourd'hui, pour la violence du monde d'aujourd'hui, pour la quête de sens dans laquelle les gens se trouvent, pour la brutalité, ce monde brutal dans lequel tous se trouvent. On peut, c'est en vivant au cœur de cette brutalité, le monde sans aucun sens et en ayant du sens que les gens peuvent. Jésus a traversé la Samarie, il a osé, il a pris contact, il a fait le pont et il a pris le temps, hein, de la crédibilité. Ensuite, quand l'ouverture a pu se faire, il a pu dire, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce n'est ni là, ni ici, c'est en Christ. C'est moi qui suis le temple, c'est moi qui suis la manière d'adorer, si vous voulez être en contact avec Dieu, si vous voulez réellement être, et là je reprends la leçon que le texte nous dit pour l'appliquer à nos vies, si tant est que nous voudrions comprendre, savoir comment découvrir Dieu, la seule manière, c'est en Christ. Quand il dit les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité, il est en train de dire là, ce n'est pas votre tradition, ce n'est pas votre manière de faire qui compte. Ce n'est pas ce qui a été établi de façon dans le temps, dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire de votre pays, dans l'histoire de ceci. Beaucoup disent, moi je suis chrétien parce que je suis né dans une culture chrétienne. Ce n'est pas cette culture qui compte. D'autres viennent et ont d'autres cultures. Ce n'est pas cette culture qui compte. Ce qui compte, c'est le Christ Jésus. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La vérité, là, c'est ce qui est dit, en fait, c'est le chemin par lequel le Seigneur, que Dieu lui-même a désigné sur, comme étant la manière de l'adorer. Et c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes, aujourd'hui et de tout temps, ont voulu construire leur manière d'adorer. Se sont donné leurs propres règles d'adorer, les uns comme ceci, les autres comme cela. Et nous sommes dans un monde où on nous apprend, où on nous dit, où on nous impose de respecter, et c'est tout à fait normal de respecter cela. Mais respecter, ça ne veut pas dire que croire que toutes les pratiques sont la vérité. Toutes les pratiques sont la vérité. Là, Jésus vient lui dire, ta façon de croire n'est pas celle que tu pensais, n'est pas la bonne. Et il dit même aux Juifs, à ceux qui pourraient se targuer et qui pourraient penser qu'ils ont la vérité, parce que c'est ce qu'il dit. Vous ne l'aviez pas, vous, mais le salut vient des Juifs. Donc ils savent, eux. Et bien, à même ceux-là qui savent, peut-on savoir, il leur dit à eux aussi. Attention, la vérité ne se trouve pas là. C'est tout autre chose. La vérité, c'est moi. La manière d'adorer, c'est sans s'appuyer sur la vérité. Et puis, il dit, esprit et vérité. C'est en esprit que cela se passe. Et là, adorer en esprit, nous qui sommes le temple de l'Esprit, c'est adorer avec toute notre vie. C'est tout notre être qui adore. C'est tous les espaces de notre vie. L'adoration, ce n'est pas juste le petit temps de prière ou de chant que nous avons lors du culte ou lors de nos assemblées. L'adoration, c'est une soumission complète de notre existence à Dieu dans tous les aspects de notre existence. L'adoration, c'est dire que nous reconnaissons qu'il est notre Dieu et que nous sommes à son service et que nous avons été créés pour lui et que nous avons été créés pour l'honorer, pour le servir, pour l'adorer. C'est ça l'adoration en esprit. Elle prend tout notre être. En fait, l'adoration, je pourrais dire comme ça et ça pourrait être choquant, elle est exigeante. L'adoration n'est pas facile, elle est même impossible, parce qu'elle demande de nous, l'adoration authentique demande de nous que tout notre être y soit, corps, âme et esprit. Et en fait, le véritable adorateur adore en esprit et en vérité. Et quand il dit cela, presque il est en train de nous dire, ce n'est pas si facile que ça. Vous croyez que c'est monter à la montagne et pratiquer selon un rite particulier. J'ai pratiqué, il y a les 10 commandements de l'adoration, je le fais, donc j'ai réellement adoré. Il est en train de dire, non, c'est pas ça, c'est plus que cela. Et finalement, il est en train de dire, personne, vous ne saurez pas adorer, vous ne savez pas adorer, vous ne pourrez pas adorer. L'adoration que vous allez me donner est trop indigne, trop insuffisante, parce qu'elle ne dit pas tout. Vous n'y mettez pas tout votre cœur. Vous ne pouvez pas réellement pécher là. C'est impossible. Alors, qui sont les vrais adorateurs que Dieu cherche, le seul et unique adorateur, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a réellement adoré Dieu comme il fallait, c'est lui. Et aujourd'hui, si nous sommes, si nous pouvons être, si chacun de vous peut être un véritable adorateur, il ne le sera que dans la mesure où il s'appuie sur l'adoration du Christ. Ne croyons pas que le culte que nous faisons là est satisfaisant devant le Seigneur. Non, il n'est pas satisfaisant. Pourquoi ? À cause du fond de notre cœur. Mais ce qui fait qu'il accueille ce culte et joyeusement, c'est juste parce que nous adorons au nom du Christ. Et si nous ne comprenons pas que nos cultes, quelle que soit la forme qu'ils vont prendre, quelle que soit la musique qu'on va lui donner, quelle que soit l'application qu'on va en faire, quelle que soit la préparation qu'on va avoir, si nous croyons que c'est dans ces détails-là que se trouve la réalité de notre adoration, nous nous trompons, parce que la seule authentique adoration que le Seigneur attend et agrée, c'est celle qui se fait au nom de Jésus-Christ, en s'appuyant sur le Christ, en comprenant bien que nous ne sommes pas assez bons dans l'adoration, et que le Christ, lui, est celui qui a parfaitement adoré Dieu et qui est allé au bout de cette adoration jusqu'à la croix et dans sa résurrection. Aussi, nous n'adorons, et notre adoration est accueillie du Père que parce que nous nous appuyons sur l'adoration du Christ. Il faut que nous ayons des communautés christocentriques. Le nom du Christ doit y être chanté, doit y être proclamé, parce que c'est lui l'adorateur authentique. Et c'est grâce à lui que notre adoration est reçue du Père, est acceptée, alors que nous ne sommes imparfaits, alors que nous nous voyons dans notre cœur, que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais il accueille, il l'a fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi nous voulons dire le Christ. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur lui. Il est celui qui a parfaitement adoré. Il y a certaines églises qui disent et qui veulent séparer il y a certaines personnes qui veulent séparer entre des églises qui seraient des églises qui adorent en esprit et d'autres qui adoreraient plutôt en vérité. Comme pour vivre quelque chose de séparé. Ceux qui adoreraient en esprit, alors ça serait peut-être des églises, si je suppose comprendre ce qu'ils veulent dire, des églises plutôt charismatiques ou pentecôtistes ou autres, parce que l'esprit est présent, et puis les autres, des églises qui adorent en vérité, alors qui seraient plus attachées à la parole et tout cela. Nous comprenons bien que là, il y a une folie à penser par les choses. Le véritable adorateur, c'est pas celui qui adore ou en esprit ou en vérité, c'est celui qui adore et en esprit et en vérité, les deux choses ensemble. Et nos églises, notre communauté de tiers doit être une communauté où l'esprit est présent et en même temps où la parole est présente, où la vérité est là. C'est ça, c'est cet équilibre, c'est ce fil ténu dans lequel nous sommes. Et c'est là que le Christ se trouve. C'est là que le Christ se trouve. Soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Appuyons-nous sur le Christ qui est l'authentique adorateur. Voilà pourquoi nous pouvons être joyeux. Notre adoration plaît à Dieu. Alléluia. Notre adoration, quand j'imagine la mienne, il accueille ma prière. Il accueille ma prière. Pourtant, il me connaît. Pourtant, il me connaît. Et c'est pareil pour vous. Voilà pourquoi nous pouvons être joyeux. Toutes les fois que nous nous retrouvons pour adorer. Voilà pourquoi nous pouvons être joyeux. Alléluia. Être de véritables adorateurs, donc, et je reprends, oser traverser la Samarie. Nous arrêter au puits, ne faisant pas le contour, ne nous détournons pas le chemin, traversons la Samarie, arrêtons-nous au puits, prenons contact et asseyons notre crédibilité par une vie fidèle, obéissante au Seigneur. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur Jésus pour cette rencontre que tu as faite avec cette femme samaritaine. qui dit tellement de sur toi et de la manière dont tu nous regardes, de la manière dont tu regardes ceux qu'on estime pas regardables. Seigneur, merci d'être celui qui entre en contact avec nous pour nous redonner dignité. Parce que la véritable dignité de l'homme se trouve dans le fait qu'il est regardé par son Créateur. Merci Seigneur de nous montrer, de nous donner envie d'être en contact avec les autres, de casser toutes les barrières qui nous empêchent d'être en lien, d'être en relation d'authenticité, de vérité avec les autres. Seigneur, s'il te plaît, ouvre notre cœur, donne-nous cette audace de traverser la Samarie, de briser toutes les barrières et d'aller jusque-là. Donne-nous aussi l'imagination, le discernement pour faire pont avec l'autre. Et puis, donne-nous ton esprit qui nous mette en cohérence avec ta parole dans une vie de fidélité, afin de nous préparer au moment où nous pourrons témoigner de toi. Seigneur, merci. Merci pour l'adorateur que tu es, l'adorateur parfait que tu es, et merci pour le chemin d'adoration dans lequel tu nous places. Nous te prions que notre Église, notre communauté ici, soit une communauté joyeuse, parce qu'elle a bien compris que le véritable adorateur c'est toi et que son adoration est accueillie par le Père grâce à toi. Amen.